Vous écoutez RTL.
Il est 15h et bientôt 4 minutes sur RTL, c'est l'heure dont on est fait pour s'entendre. Bonjour Flavie Flamand.
Bonjour Bénédicte Tassard. Bénédicte, je vous prends l'antenne, puisque vous voulez bien me la donner.
Je vous la donne.
Je vous promets de vous la rendre à 16h pour un prochain point sur la formation. A tout à l'heure. De notre temps, c'était le club des 5, les élastiques, les billes et la marelle. Avez-vous déjà essayé de proposer ces activités à vos enfants? Nos enfants, justement, on les déscotche des écrans cet après-midi sur RTL. C'est tout de suite.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus chez vous. On est fait pour s'entendre, c'est l'émission qui vous ressemble. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que c'est vous qui la faites en réagissant tous les jours entre 15h et 16h au 3210 et sur les réseaux sociaux. Et vous savez combien vos témoignages nous sont précieux. Merci pour votre fidélité. Festival de rire, de liberté, de réflexion hier avec notre invitée Sophie Fontanelle. Entre 15h et 16h, nous étions aussi en direct. Non, avoir les cheveux blancs, ça n'est pas forcément être Mamie Nova. Et si vous n'étiez pas avec nous, et bien surtout allez écouter l'émission en replay pour vous délecter. C'était un régal. Des échanges avec Mathieu, joyeusement chahuté par notre auditrice Lily, ou encore Pierre qui nous a toutes retourné le cœur en fin d'émission. Mais pour l'heure et jusqu'à 16h sur RTL, que s'est-il passé? Comment n'avons-nous pas vu le problème venir? Les écrans de toutes sortes ont envahi notre vie et celle de nos enfants. Ça forcément vous l'avez remarqué puisque vous aussi vous êtes accro aux écrans. Mais nos petits ne sont pas armés pour résister à cette sollicitation permanente du digital. On leur prédit des troubles physiques, de l'attention, du comportement. Alors quel est le danger de l'utilisation massive des écrans chez nos enfants? Comment les accompagner vers une consommation plus raisonnée? Faut-il prévenir ou interdire? Génération lève la tête quand je te parle, c'est tout de suite avec nos invités. Et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par monsieur Serge Tisseron, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu Serge Tisseron, merci d'avoir accepté notre invitation, c'est toujours une joie de vous recevoir. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, vous proposez différents ouvrages, mais notamment celui-ci, 3, 6, 9, 12, apprivoiser les écrans et grandir aux éditions RS, et le guide pour les accros aux écrans ou comment garder à la fois mon ordi et mes parents aux éditions Nathan. Ce qui veut dire, Serge Tisseron, qu'aujourd'hui les écrans s'immiscent dans les relations familiales, puisque vous nous proposez cet ouvrage, comment garder à la fois mon ordi et mes parents, ça veut dire qu'il faut négocier aujourd'hui pour pouvoir vivre ensemble autour des écrans et donner sa juste place aux écrans dans nos vies.
Oui, il faut négocier et c'est bien d'apprendre aux enfants à négocier. Hein, toute leur vie, ils auront à négocier, donc autant commencer vite. Et puis, il faut savoir qu'ils peuvent tout à fait bien choisir d'autres activités quand on leur permet de les avoir, quand on les guide, quand on les accompagne. Donc voilà, ce qu'on va voir pendant l'émission, c'est qu'il ne faut pas hésiter parfois à enlever la console, enlever le téléphone mobile, mais on va voir comment, parce que c'est évidemment le comment, la question que tout le monde se pose.
Accepter d'aller en avant vers le conflit.
Oui, accepter d'aller vers le conflit parce que le conflit fait aussi partie de la vie. Le conflit peut être formateur, mais y aller en ayant des arguments y aller en se sentant convaincu de ce que l'on souhaite pour ne pas mollir trop pendant les négociations, parce que ça, c'est ravageur pour un enfant quand il s'aperçoit que ses parents ne sont même pas sûrs de ce qu'ils veulent lui imposer. Donc, il faut déjà que les parents aient les idées claires. Donc, c'est bien pour ça qu'on est ici pour en parler avec vous.
Et que vous êtes là pour nous y aider. Vous connaissez cet ouvrage, Serge Tisseron,
oui,
puisque vous en signez la préface. Et si on a commencé avec vous, c'est parce que vous considérez que l'ouvrage de notre autre invitée, Anne Pémira, est un ouvrage indispensable pour les parents.
Oui, absolument, parce que en plus de choses qu'on entend ou qu'on voit ici et là, je trouve qu'il contient des conseils fort judicieux et fort importants pour savoir justement comment s'y prendre, le comment. Et notamment des conseils qui font toujours une grande part au respect qu'on doit à l'enfant, au respect qu'on doit à ses choix. Je dirais que ce n'est pas un ouvrage contre les écrans, c'est un ouvrage pour les enfants.
Très bien. Eh bien, cet ouvrage, il s'intitule donc « Débrancher vos enfants » aux éditions First. Si vous nous suivez sur RTL.fr, voilà, il est juste à côté de ma tête. Je suis en train de vous le présenter à l'image. Et Anne Pémira, qui est coach parental, en est l'auteur. Elle est avec nous aujourd'hui. Anne Pémira, bonjour.
Bonjour.
J'ai adoré votre ouvrage, donc je vous le dis, parce que j'ai trouvé effectivement, comme le dit très justement Serge Tisseron, que c'est un ouvrage qui va dans le sens de ce qui est bon pour nos enfants et qui nous donne surtout des arguments qui sont des arguments parfaitement recevables et des trucs et astuces pour non seulement une paix à la maison, parce qu'on a bien compris que les écrans c'était une source d'engueulade à la maison, mais aussi pour une sorte de pour recouvrer finalement une vraie relation entre les parents et les enfants. Oui, tout à fait. C'est effectivement ce que je propose dans l'ouvrage, c'est de donner des clés aux parents pour trouver le bon équilibre pour chez eux et de le faire en comprenant bien ce dont les enfants ont envie, mais quand même aussi en posant les limites que les parents souhaitent poser. Donc c'est vraiment un livre qui souhaite accompagner les parents et je pars de ma pratique au quotidien avec les parents.
Oui, c'est l'expérience qui vous fait parler finalement.
Tout à fait, et que je retranscris dans le livre en donnant des trucs et astuces, mais aussi plus loin, parce que c'est pas un sujet facile. Hein. Parfois pour les parents, c'est pas évident, c'est compliqué, il y a toutes sortes d'écrans, les chiffres le montrent, les enfants passent énormément de temps sur les écrans, donc c'est pas toujours évident pour les parents. Donc c'est comment leur proposer une démarche structurée qui leur permette justement d'avancer sur ce sujet et en faisant ça le plus en douceur possible pour les enfants et la famille.
Alors justement, on va rentrer dans le détail pendant toute cette émission, mais vraiment restez à notre écoute car tout au fil de nos échanges avec Serge Tisseron et avec Anne Pémira et avec vous bien sûr, vous allez apprendre justement certaines choses, apprendre des chiffres éloquents que je vais vous livrer dans un instant. Et quand je disais il y a un instant également qu'on n'avait pas vu le problème venir, c'est vrai que c'est aujourd'hui qu'on s'interroge, alors que les écrans sont absolument partout à la maison. Si vous regardez autour de vous, vous allez forcément en trouver. On se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Comment aider nos enfants à une utilisation plus raisonnée de leurs écrans? On en parle aujourd'hui avec nos invités, on va vous livrer plein de conseils. Nos invités sont donc Anne Pémira, qui est coach parentale, et Serge Tisseron, qui est psychiatre. Alors des messages évidemment qui nous arrivent sur les réseaux sociaux dont on est fait pour s'entendre. Christelle, notre fille a 7 ans, avec la reprise de l'école, nette diminution des écrans, mais pendant les vacances, c'était difficile. Snapchat, YouTube, c'est peut-être instructif, mais je trouve que c'est trop. Elle sera toujours connectée, qu'on le veuille ou non. On essaie juste de limiter au moins avant le coucher. Jean-Christophe, qui lui, nous écrit sur Facebook que les écrans ont fait son éducation. Les jeux vidéo éduquent les enfants, souvent mieux que les professeurs. J'ai eu mon diplôme d'état d'anglais grâce aux jeux et aux films. Il faut laisser les enfants grandir avec leur temps. D'accord, mais nos enfants, on aimerait bien avoir un peu plus d'échanges avec eux. On aimerait bien, à un moment donné, voir autre chose que le haut de leur tête parce qu'ils sont penchés sur leurs écrans. On aimerait bien pouvoir, à un moment donné, aller faire une balade dans la forêt et qu'ils trouvent ça super intéressant. Et pourtant, on a l'impression que depuis que ces foutus écrans sont rentrés dans notre existence, Anne Pémira, ces choses-là ne sont plus possibles. Notre relation à nos enfants s'était considérablement modifiée.
Oui, je pense que les écrans font écran avec la famille quand c'est excessif. Ouais. Et c'est vrai que les chiffres nous le disent. Hein, en moyenne, les enfants passent une fois et demie plus de temps devant les écrans qu'à l'école. Ça peut paraître énorme, mais les écrans, c'est tous les jours, c'est les vacances, c'est week-end inclus. Alors que l'école, c'est certains jours. Et donc, c'est vrai que ça peut être un peu difficile pour les parents, parce qu'on a l'impression qu'à côté, tout est terne, tout est ennuyeux, et donc on n'a qu'une envie, c'est de les prendre, de les secouer et de les amener faire autre chose. Donc, ce que je fais, et quand j'accompagne les parents, c'est ça que j'essaye de leur proposer, justement, comment arriver à limiter les écrans pour que les enfants puissent faire autre chose. C'est pas limiter pour limiter, il y a souvent plein de choses intéressantes à faire, mais c'est pour pas oublier le reste, de faire les devoirs, de sortir, de passer du temps en famille.
Et leur donner le goût d'autre chose aussi, parce que finalement, on peut les convaincre facilement dès lors où on est dans des instants de qualité.
Voilà, et ce qu'il faut, et vraiment un conseil, je pense aux parents, c'est que ce soit clair qu'à certains moments, il n'y a pas d'écran, sinon ils seront toujours tentés d'aller en faire. Donc il faut qu'il y ait vraiment des moments sans écran pour tout le monde, et ça les aide à passer à autre chose.
Serge Tisseron, on a eu le message de Christelle qui nous explique que pendant les vacances, c'était difficile avec sa petite Maggie parce qu'elle était sur Snapchat et YouTube. Et on a Jean-Christophe, adulte, qui nous explique que les écrans l'ont éduqué, notamment les jeux vidéo. On va revenir d'abord sur la différence entre écran et écran.
Oui, mais puis on reviendra sur la différence entre 7 ans et 14 ans.
Évidemment.
Donc oui, écran. Moi, je crois que ce qui a complètement bouleversé la vie des parents, c'est quand les écrans sont devenus connectés. C'est-à-dire quand les parents ont eu l'impression que leur enfant sur un écran communiquait avec quelqu'un d'autre qu'avec eux. Tant que l'enfant passait du temps devant la télé, moi j'ai grandi devant la télé, ça serait pas venu à l'idée de mes parents de me la limiter, parce que la télé était dans la maison, elle marchait tout le temps, mes parents la regardaient, je la regardais, voilà. Donc on n'était pas vraiment ensemble pour la regarder, mais
La télé partageait.
Il ne se sentait pas exclu de quelque chose. Le problème, c'est évidemment Internet, et plus encore aujourd'hui les réseaux sociaux, ou les youtubeurs, les youtubeuses, auxquels les adultes ne comprennent rien souvent. Et donc, du coup, les adultes ont l'impression qu'ils sont exclus de quelque chose. Et qu'il y a une influence importante des écrans sur leur enfant qui leur échappe complètement. Et c'est ça, je crois, qui les angoisse. C'est pour ça que la première règle, c'est de dire aux parents, essayez de comprendre qu'est-ce que vos enfants voient, intéressez-vous-y, comprenez qu'est-ce qu'ils y voient et qu'est-ce qu'ils y font. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir, hein, comme dit très bien Anne Pémira, poser des repères, poser des limites. Mais il faut d'abord commencer à s'intéresser à ce qu'ils y font.
Alors, ces fameuses limites, on va en parler, si vous le voulez bien, avec Aurore. Aurore est une jeune maman en couple avec Anthony. Elle est maman au foyer, elle a 3 enfants et on va revenir avec elle, notamment sur les âges. Bonjour Aurore, bienvenue sur RTL.
Bonjour à tous.
Comment vont Clara, Enzo et Chloé ?
Eh ben, ils ont fait leur rentrée, ils vont bien.
Bon, super. Alors, c'est vrai qu'ils ont des âges différents, parce que Clara a 11 ans, Enzo 8 ans, Chloé 3 ans. Est-ce qu'ils sont déjà tous les trois attirés par les écrans ?
Alors, Chloé, la plus petite, juste la télé. C'est tout ce qu'elle a le droit. Clara, elle a la télé, la tablette et une DS.
D'accord,
et
la plus grande.
Enzo, pareil.
D'accord. Est-ce qu'ils ont, ils sont tous les trois égaux dans leur envie d'en découdre avec les écrans, ou est-ce que l'un d'entre eux se distingue un peu par une sorte de d'addiction peut-être plus marquée ?
Enzo surtout.
Ouais.
Enzo est plus dans l'addiction.
Le petit garçon déjà. Est-ce qu'il y a une différence entre les garçons et les filles ? Non, pas vraiment en fait. Anne Pémira.
J'ai des parents qui viennent aussi bien pour des garçons que des filles.
D'accord. Donc Enzo, on pourrait dire quoi ? Qu'il est accro un peu ?
Accro, et puis c'est surtout que quand il est devant les écrans, après je le trouve énervé, je le trouve... il est déconnecté entre guillemets de la vie de famille en fait.
Ça n'est plus le même enfant quand il est passé par la phase des écrans. Ça vous inquiète ?
Oui.
Ça vous interpelle ? Vous souhaitez réagir ? Oui, c'est très déstabilisant hein, pour les parents que nous sommes. Est-ce que vous abordez le sujet écran avec Enzo, avec la boule au ventre ? Est-ce que ça fait partie des sujets dont vous vous dites ?
Non, pas avec la boule au ventre.
D'accord.
Parce que, après, ça reste un petit garçon quand même assez... il est plutôt calme. C'est surtout ce qui me fait peur, c'est qu'il est déconnecté de la famille, en fait.
Bon, alors ce qu'on va faire, Aurore, c'est qu'on va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL. Vous allez nous expliquer comment ça se passe du côté d'Enzo. Alors c'est vrai qu'Enzo, il a 8 ans, mais ce que les parents craignent souvent, c'est la crise. C'est la crise de colère que les enfants peuvent nous faire quand on leur prend une tablette des mains. Et là, qu'ils soient petits ou plus grands, c'est vrai que c'est toujours impressionnant. Et on va y revenir avec vous tous dans un instant. Ce sera tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Dans un instant, nous allons donner la parole à Aurore sur l'antenne d'RTL. On va s'occuper du cas du petit Enzo. Mais auparavant, quelques chiffres éloquents sur la relation que nos enfants entretiennent avec les écrans. 73% d'entre eux, entre 4 et 14 ans, possèdent au moins un écran personnel. 75% des 11-18 ans ont au moins 4 appareils connectés chez eux et 50% en ont plus de 7. 4 jeunes sur 5 reconnaissent passer plus d'une heure par jour devant un écran et parmi eux, 1 sur 5 y passe plus de 6 heures par jour. 23% des 11-14 ans et 40% des 15-18 ans reconnaissent rester parfois éveillés ou se réveiller pour aller sur Internet la nuit. Alors ça, si ça ne fait pas quelques frissons dans le dos, franchement, la relation que nos enfants ont à leurs écrans, on en parle avec nos invités que sont Anne Pémira et que sont également Serge Tisseron. Serge Tisseron, on ne doit pas parler d'addiction. Pourtant, quand on voit les chiffres, excusez-moi.
Alors d'abord, puisque vous venez de citer des chiffres, je voulais en citer d'autres.
Oui.
Il y a une enquête que tout le monde peut trouver sur Internet qui s'appelle Media in Life, donc les médias dans la vie, qui montre que les personnes âgées de 14 à 36 ans, c'est-à-dire des gens qui ont grandi avec le numérique, ils sont toujours scotchés à leur téléphone mobile. Ça, c'est vrai.
Ça, c'est
mais
pour
en
notre
même temps, mais ouais. Il n'y a pas de surprise. Mais en même temps, la même étude de Médiamétrie montre qu'ils vont plus au cinéma que les autres. Ils invitent plus souvent des amis chez eux à dîner que les autres. Ils vont plus souvent au théâtre, ils vont plus souvent au musée. Donc c'est à la fois. Ils sont toujours scotchés sur leur téléphone mobile, mais en même temps, ils ont beaucoup d'activités de socialisation dans la vraie vie. Je tiens à le dire parce que des fois, on a tendance à opposer les activités sur les outils numériques et les activités dans la vraie vie. En fait, pour ces jeunes adultes-là, 14-36 ans, elles sont parfaitement complémentaires. Alors évidemment, il y a toujours des cas particuliers, mais statistiquement, c'est quand même comme ça que ça fonctionne.
Alors Enzo, il a 8 ans. Il pose question à sa maman qui est en ligne avec nous. Aurore, vous êtes toujours là. Racontez-nous un petit peu le comportement d'Enzo par rapport aux écrans. Ça a commencé à quel âge ?
Oh, ça a commencé très jeune, ça a commencé à 4 ans.
Oui.
Donc je travaillais, puis par contre, il y avait juste la télé. Et, Enfin voilà, c'était la télé, il y a son papa qui joue aux jeux vidéo. Bon, sa petite sœur avait la DS, donc il regardait, il ne jouait pas avec. Mais ça a commencé comme ça.
D'accord. Vous avez vu les choses s'installer ou finalement vous vous êtes réveillé un matin en vous disant mais là Enzo il dépasse un petit peu les bornes et il a une relation pas très saine avec tout ça.
En fait je travaillais et tout donc je me suis pas bien rendu compte. Je me suis réveillée un jour et j'ai vu que c'était trop quoi.
Comment ça se traduit ?
Ça se traduit que, par exemple, je vais l'appeler une fois, je vais l'appeler deux fois, je vais l'appeler trois fois. Il va pas répondre. S'il est devant la télé, il va pas, comme s'il m'entendait pas, en fait.
D'accord.
Ça va se traduire par ça. Et puis, si on lui dit non, ben, il se mettait un petit peu en colère, puis il pleurait. Enfin, voilà, ça se traduisait comme ça. Et c'est là que je me suis dit, il y a un problème.
Le sommeil d'Enzo, comment est-il?
Des cauchemars un petit peu. Donc plus des cauchemars, mais après bon il dort.
Et ça voilà. Va à l'école?
Ah par contre à l'école ça joue pas du tout sur ses résultats scolaires.
Alors qu'est-ce qu'il fait sur ses écrans? Il est en contact avec d'autres? Il est déjà sur les réseaux sociaux?
Ah non pas du tout par contre ça.
D'accord.
Non ça j'ai limité. Non mais par exemple la télé ça va être les dessins animés. Sur la tablette, c'est plus des jeux de son âge, par contre, parce que je fais attention que ce soit quand même de son âge. Voilà, la DS, c'est des jeux aussi, mais par contre, il joue pas avec qui que ce soit.
Alors, est-ce qu'il joue avec Chloé et Clara? Pas du tout.
Pas au jeu, non, parce qu'on n'a pas de, console télé, par contre.
D'accord, ok. Bon, alors, on va donner la parole à Anne Pémira. En fait, c'est classique un petit peu, hein, c'est-à-dire qu'ayant lu votre ouvrage, on retrouve quand même chez Enzo certains symptômes, je dirais, ou certains comportements qu'on peut retrouver dans votre ouvrage chez First Edition.
Alors, chaque situation est bien sûr différente, mais c'est vrai qu'on retrouve quand même des traits communs, et notamment la difficulté d'arrêter un enfant qui est sur une tablette, devant une télé ou devant un jeu. Donc, effectivement, toute la question, c'est de savoir comment accompagner les parents pour qu'ils puissent faire en sorte que l'enfant arrête sans que ce soit source de conflit, sans que l'enfant chouine pendant des heures.
Mais ils nous font peur, moi, je trouve, les enfants, parfois.
Alors parfois on a des réactions assez extrêmes, surtout quand les enfants grandissent, ils sont ados, parfois ils font un peu peur, même physiquement. Donc moi ce que je propose aux parents, c'est de revenir un pas en arrière, c'est d'être proactif plutôt que réactif, de bien réfléchir, ça c'est la première étape, à ce que, comment ça se passe, à ce qu'ils veulent. Ensuite de préparer ce qu'ils veulent changer, ensuite de mettre en œuvre. Et en fait ce que je vois avec les parents que j'accompagne, c'est qu'en prenant un peu sous forme un peu d'un projet ces changements, on y arrive et on y arrive avec beaucoup moins de résistance que ce qu'on peut imaginer au départ.
L'idée,
voilà, c'est en fait bien toute l'idée effectivement du livre et de cet accompagnement.
Voilà, c'est de les rallier à notre cause, quoi. Hein. C'est de les convaincre finalement du bien fondé de.
Alors ça, c'est ce qu'on aimerait. On n'y arrive pas toujours. Donc c'est comment on arrive en tout cas à imposer certaines limites qui nous paraissent vraiment importantes. Si en tant que parent, on est convaincu que c'est important d'arrêter à certains moments, de venir dîner à l'heure, que ça traîne pas. C'est comment j'arrive à faire passer ça auprès de mon enfant.
Eh bien, dans un instant, on va délivrer des conseils concrets sur l'antenne d'RTL. Aurore, je vous remercie. Vous souhaiterez une bonne rentrée aux enfants de notre part. Et puis, vous restez évidemment à notre écoute. On est en direct sur RTL jusqu'à 16h. On vous embrasse, Aurore.
Au revoir.
À bientôt, au revoir.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Quand je vois des bébés avec des tablettes, nous écrit Catherine sur Facebook, tandis que papa et maman sont sur leur téléphone, eh bien je me pose des questions et ça me choque. Clémentine qui explique que son petit garçon de 3 ans regarde la télé seulement 30 minutes par semaine. Résultat, il a un imaginaire ultra développé. Et puis Claudine sur Facebook. Bonjour Flavie, moi je n'ai jamais limité les heures devant les écrans. Peut-être parce que nous leur avons inculqué les bienfaits de jouer dehors et l'amour de la nature. L'idée c'est d'être complet. L'idée ça n'est pas de démonter les écrans, de décider qu'il n'y en aura plus à la maison. On vit quand même avec son temps, c'est une réalité. Et ils ont aussi forcément des vertus, ces écrans qui ont envahi notre existence et celle de nos enfants. Mais le but c'est de trouver un juste milieu qui fait qu'on ne perd pas totalement nos petits qui restent rivés sur leurs écrans et eux, justement, restent en contact avec la réalité du monde qui les entoure. On en parle aujourd'hui avec Anne Pémira, qui est auteure d'un ouvrage « Débranchez vos enfants » aux éditions First. Et puis Serge Tisseron, je vous conseille le guide pour les accros aux écrans ou comment garder à la fois mon ordi et mes parents aux éditions Nathan. Alors, première chose, Serge Tisseron, vous vouliez rebondir sur ce que nous disait Anne Pémira pour entrer concrètement dans l'action, préparer son projet. Et, oui. Et la période aujourd'hui, là, est quand même très propice à ça.
Exactement. La rentrée scolaire, les enfants se détachent un peu de leur passé, des jouets de l'année d'avant, mais bon, les cahiers, les livres, tout ça, c'est nouveau. Ils peuvent avoir des nouveaux camarades, ils en perdent des anciens, voilà. Donc c'est un moment de remaniement psychique chez l'enfant. Et je pense vraiment qu'il faut utiliser ce moment pour dire à l'enfant, mais écoute, jusque-là, tu avais tel comportement, tu faisais telle chose, tu regardais la télé à telle heure, etc. Et puis bon, maintenant tu as grandi, et peut-être on pourrait essayer d'organiser un petit peu les choses autrement. Par exemple, regarder un long métrage ensemble une fois par semaine. Et puis bon, tu auras un petit peu plus de travail à faire. Donc, pas regarder la télé tous les jours. Voilà, mais anticiper. Et anticiper, je crois aussi, en plançant toujours des repères horaires. Vous savez, si des parents font un salé de crème au chocolat, ils ne mettent pas sur la table du salon avec une cuillère à côté. Ils disent, ça sera à la fin du repas. Ils mettent une assiette devant l'enfant et hop, une portion. Mais je crois qu'il faut penser les écrans en termes de portions. C'est-à-dire, on dit à l'enfant, tu pourras regarder la télé ou jouer aux jeux vidéo de telle heure à telle heure, tel jour. Et l'enfant anticipe, il est amené à attendre. Et vous savez, attendre, c'est la chose aujourd'hui qui est devenue la plus compliquée parce que les écrans nous créent l'illusion de tout nous donner tout de suite. Oui. Donc apprendre à l'enfant à attendre et l'apprendre à organiser sa régulation d'écran.
Anne Pémira, s'organiser, préparer l'offensive, quelque part, c'est une façon aussi de nous prémunir de l'angoisse d'affronter nos enfants. La première peur que l'on a en tant que parent, c'est justement leur réaction. C'est justement leur crise. On se dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir aborder ce sujet si précieux pour eux? En fait, leur vie, c'est leur écran. Donc, comment faire pour pouvoir effectivement les contourner et en même temps savoir les convaincre? C'est ce qui bloque les gens. C'est pour ça qu'il faut se préparer.
Je pense que pour de nombreux parents, ça paraît parfois impossible de changer les choses, tellement la pression des enfants est forte et la peur, effectivement, de la réaction un peu extrême. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien se préparer, bien savoir ce qu'on veut mettre en place. Et c'est vraiment, à nouveau, l'approche moi, structurée que je propose aux parents et que j'ai retranscrit dans le livre. C'est comment moi, je réfléchis déjà à ce que je veux. Ensuite,
comment je réfléchis à ce que je veux, c'est de me dire quoi? C'est de me dire, moi, ce que je voudrais, c'est passer une heure d'échange avec mes enfants quand ils rentrent de l'école. Je leur accorde du temps pour qu'on discute et après, ils ont le droit à une heure de tablette.
Par exemple, voilà. Et là, on va vraiment être en phase avec ce que souhaite le parent. Chaque parent est différent, des valeurs différentes, des convictions différentes. On n'est pas là pour leur dire ce qui est bien, on est là pour les accompagner. Donc, une fois qu'ils ont bien décidé, c'est être bien clair là-dessus. Et ensuite, effectivement, préparer les enfants à l'avance et éventuellement préparer à des moments où il y a des changements comme la rentrée ou les prochaines vacances, c'est raté pour la rentrée. Et ensuite, le mettre en œuvre auprès des enfants en utilisant effectivement l'empathie pour montrer qu'on comprend que ce n'est pas forcément facile pour eux, mais que c'est vraiment important pour nous. Et donc, ça pourrait être, par exemple, comme vous le disiez, de libérer une demi-heure, une heure dans la soirée pour passer du temps en famille sans écran. Souvent, une question des parents, c'est l'exemplarité, en disant « oui, mais moi, je ne suis pas exemplaire, donc est-ce que je peux imposer quelque chose à mes enfants ?» Donc, effectivement, ça peut être intéressant pour les parents de revoir l'usage numérique un peu de toute la famille et de s'imposer aussi peut-être certaines limites. Forcément, on a d'autres contraintes, on travaille, il y a plein de choses administratives qu'on doit faire.
Et puis, on est les grands aussi.
Voilà,
quoi,
on est responsable de ce qui se passe à la maison, donc on a plus de choses à faire. Mais ça n'empêche qu'on peut montrer pour le principe que pour le repas, par exemple, personne n'a d'écran. Ou pendant un moment dans la soirée, personne n'en a et c'est vraiment du temps en famille. Mmh. Et ça, c'est si pour les parents, c'est important et c'est une vraie valeur pour eux, une valeur familiale, que d'être ensemble, d'échanger, de discuter.
On va se retrouver, si vous le voulez bien, sur cette antenne. Serge Tisseron, vous allez nous expliquer, parce qu'effectivement, comment aborder un enfant de 3 ans, comment aborder un enfant de 8 ans. Moi, j'ai l'impression que plus ils grandissent, plus c'est compliqué quand même. Parce qu'aborder un enfant de 15 ans en lui expliquant qu'à un moment donné, il va nous rendre la tablette dans la soirée pour qu'on puisse passer du temps ensemble, ça me semble plus difficile à aborder. Mais grâce à vous, on va y parvenir et ce sera tout de suite sur l'antenne d'RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Ça, c'est un enfant qui tient sa tablette et qui se dit, ça y est, il y a les parents qui arrivent et qui vont commencer à réguler l'histoire. Voilà, on a peur qu'ils mordent nos enfants. Et on ne les aborde pas de la même façon qu'ils aient 5 ans, 8 ans ou 17 ans, Serge Tisseron.
Oui, et plus l'enfant grandit, plus évidemment on va négocier avec lui, et puis moins on va accorder d'importance aux interdictions, et plus on va accorder d'importance plutôt à la compréhension de ce qu'il fait, à l'accompagnement.
Bien sûr.
Alors il faut dire qu'avant 3 ans, hein, aucune étude n'a montré que les écrans étaient utiles à l'enfant. Alors si un parent passe un formidable moment avec son enfant et avec une tablette, bon, il aurait tort de se l'interdire, mais c'est toujours sur des périodes courtes en usage accompagné. Puis alors quand même, quand l'enfant grandit, ben 3 à 6 ans, hein, pour aller vite, on sait que c'est un moment très privilégié pour que l'enfant développe les possibilités manuelles. Donc il faut préférer tout ce que l'enfant peut tripoter, hein, partir du fait que ben, la cuisine, la pâtisserie, peut-être le bricolage, les petits objets qu'on tripote, la pâte à modeler, tout ça, c'est formidable. Alors, si l'enfant est accompagné dans ses activités, on s'aperçoit que sa demande d'écran est moins importante. Pour la demande d'écran, ben, vous savez, une demi-heure par jour, c'est largement suffisant. On prend le temps aussi d'en parler. Alors, vous l'avez dit, mais je le répète, hein, on sait aujourd'hui qu'il y a un élément quand même déterminant dans la réussite d'un enfant, c'est le fait qu'il puisse bénéficier tous les jours d'un temps d'échange avec ses parents, et prendre le repas du soir sans télévision, ni téléphone mobile, ni tablette, si les parents qui nous écoutent pouvaient faire ça, ça changerait déjà radicalement leur propre vie et la vie de leur enfant.
Oui, et puis ce sont des moments sacrés, en plus.
C'est un moment sacré.
Le moment du repas ensemble.
Et puis, ben, quand l'enfant grandit, à partir de 6 ans, alors là, il y a une pléthore de logiciels créatifs, hein, qu'on trouve sur Internet. Là, c'est vraiment un beau moment. Il faut que les parents s'informent sur tout ce que l'enfant peut faire de créatif. Logiciels de programmation ultra simple en accès gratuit sur Internet comme Scratch, de logiciels de fabrication de films image par image également gratuit. Donc là, il y a vraiment une responsabilité des parents de s'intéresser à ce qui est accessible gratuitement ou pour quelques euros sur Internet et qui peut aider l'enfant et l'accompagner, hein. Et puis éventuellement aussi lui offrir un petit carnet sur lequel il est invité à marquer son temps d'écran. Et puis voilà, puis quand il grandit, ben, le mettre en garde après contre les dangers d'Internet et puis continuer à parler avec lui. Et j'ajouterais qu'une grande difficulté qu'ont des parents, c'est souvent de croire que leur enfant grandissant n'aurait plus besoin d'eux. Vous savez, il y a le bruit qui court comme quoi les jeunes, ils auraient, le numérique dans le sang, ils n'auraient pas besoin d'être aidés pour s'y déplacer. C'est complètement faux. Hein. À tout âge, nos enfants ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous à tout âge, au moins comme des partenaires avec lesquels parler de ce qu'ils font, échanger, s'informer mutuellement. Voilà. Donc, ben, c'est un programme un peu pour tous les âges. Hein. C'est pour ça que je dis 3, 6, 9, 12, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Et au-delà.
Apprivoiser les écrans et grandir, c'est votre ouvrage chez RS. Anne Pémira, vous êtes coach parental, c'est-à-dire que vous nous aidez, vous nous donnez des conseils. Concrètement, vous nous l'avez bien dit, on a un projet. On a un projet en tant que parent. Je me permets juste de dire, c'est bien d'être d'accord dans le couple, hein, parce que quand c'est un projet qui est dicté par la maman et qu'il y a papa qui n'est pas d'accord, bon, déjà, on affiche devant nos enfants une sorte de fragilité de nos convictions et ça passe beaucoup moins bien. Quand on a notre projet, par exemple, qu'on se dit, moi, je veux que les écrans, ce soit tant de temps par semaine ou par jour, peu importe le projet parental, on n'est pas là pour le juger et on n'est pas là pour dire il faut faire comme si ou on doit faire comme ça. À partir du moment où j'ai mon projet, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, parce que je ne vais pas l'exposer à mes enfants entre je ne sais pas, la poire et le fromage. Il va falloir trouver un moment pour ça, j'imagine.
Voilà, c'est ce que je recommande effectivement aux parents, c'est d'avoir bien réfléchi à leur projet, s'être bien mis d'accord, vous l'avez souligné, c'est très important. Et ensuite, de le présenter aux enfants, alors de manière brève, hein, en disant voilà la nouvelle règle, ou voilà comment ça va se passer à partir de la semaine prochaine, ou dans 15 jours, ou à la rentrée. Et ensuite, donc, de bien les préparer là-dessus. Plus ils grandissent, effectivement, c'est peut-être laisser un peu plus de marge de manœuvre, mais dans un cadre défini par les parents. Et ensuite, bah, de mettre ça en œuvre en encourageant les enfants et en utilisant, comme je disais tout à l'heure, l'empathie. Donc, je vais prendre un exemple concret d'un parent que j'ai suivi récemment. C'était un petit garçon qui voulait absolument tous les matins regarder Peppa Pig, qui se levait tôt pour regarder. Donc,
Peppa Pig, c'est le cochon, là, qui a la tête comme ça.
Voilà. Il adore. Et des poils comme ça. Même le week-end tôt pour avoir son Peppa Pig. Un jour, les parents ont dit c'est fini, ils ont arrêté de donner le matin. Et même s'ils ne le donnaient pas, le petit réclamait tous les matins son Peppa Pig. Donc les parents n'en pouvaient plus quand même. Et donc, au lieu de réagir, effectivement, j'ai dit, ben, on va être à nouveau proactif, on va préparer. Et ben, ils ont préparé leur enfant, ils ont posé les questions en disant, à quel moment tu pourras regarder Peppa Pig? Il a bien dit que ce n'était pas le matin, mais l'après-midi. Ensuite, quand il ne le demandait pas, il le félicitait, il l'encourageait. Quand il le demandait un peu d'empathie et en deux jours, c'était fini.
Voilà.
Voilà. Donc c'est comment utiliser un peu cette approche qui est un peu structurée avec différentes étapes, mais on y arrive auprès des enfants et quel que soit leur âge.
Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites d'abord, et je vais rebondir là-dessus, c'est dire, voilà, il y a des nouvelles règles à la maison. On peut peut-être les écrire d'ailleurs, hein. On peut peut-être trouver un support pour y revenir, pas pour dire trois semaines après, mais non, tu m'as pas dit ça comme ça, tu l'as dit comme ci, tu l'as dit comme ça, genre la négo d'ado, là, on vous voit venir, mais super loin. Donc, écrire peut-être les règles, on peut aussi faire signer une charte, comme ça, tout le monde est bien d'accord et on a la preuve dans l'engagement. Et surtout, donner du temps. C'est pas dire, c'est à partir de ce soir. C'est laisser le temps aux enfants de se préparer à ces nouvelles règles. Donc, c'est dans une semaine ou dans deux semaines.
Très bien.
C'est ça, on est d'accord. Oui. J'ai des bonnes notes.
Il faut anticiper.
D'accord.
Avec la lecture du livre.
Exactement.
Mais effectivement, c'est de donner ces techniques aux parents pour que pour donner le maximum de chance à leur projet de changement.
Voilà.
Et donc ça, c'est important pour que les enfants puissent se projeter et voient qu'effectivement, on agit par conviction. C'est pas pour les punir. On n'est pas dans la punition, dans la confiscation, mais bien dans organiser les choses autrement et puis effectivement libérer du temps pour d'autres choses.
Les enfants sont comme nous. Hein, ils ont besoin d'un peu de temps pour digérer les consignes qui arrivent. Quand le gouvernement décide d'une mesure, il dit jamais ça commencera demain. Il y a toujours un mois ou deux pour au moins pour se familiariser avec les enfants. C'est comme nous.
Voilà, donc leur laisser le temps de comprendre. En revanche, leur rappeler régulièrement que c'est tel jour, hein, pour pas que ce soit non plus complètement oublié, donc il faut bien s'y préparer.
Et l'afficher.
L'afficher, et puis le jour où on se lance, on y va. Mais on n'y va pas non plus la fleur au fusil, on propose des alternatives, et ça on va y revenir dans un instant, pour continuer à conserver le plaisir et peut-être en découvrir des nouveaux. Le plaisir d'un jeu de société, le plaisir d'un moment en famille, même le plaisir de la solitude, hein, pour eux, qui effectivement leur permet de développer leur imaginaire. Mais enfin, en tout cas, on leur prend pas un truc pour finalement ne pas les aider à remplir le vide laissé par les écrans. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL. Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
Alors, très bien, on va faire comme Cécile, on va réguler l'utilisation de la tablette pour nos enfants. Elle nous parle de sa dernière, car elle a des troubles d'apprentissage et ce n'est pas bon pour elle. Ça fait partie aussi des dangers des écrans lorsqu'on les utilise d'une façon trop massive. Ce n'est pas facile, mais on y arrive. Si vous souhaitez, comme Cécile, justement, permettre à vos enfants d'avoir une utilisation des écrans plus raisonnée, eh bien, c'est vraiment le moment de nous écouter. À partir du moment où on s'y colle, donc à ces nouvelles règles qu'on a établies, on a mis les enfants dans l'aventure. Ils ne subissent pas seulement, ils sont aussi acteurs de cette nouvelle façon de vivre, Anne Pémira. On peut peut-être leur proposer des alternatives aussi et pas leur donner un grand sentiment de vide. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on leur propose?
Alors, je pense que ce qui est très important pour les parents, c'est d'être bien clair qu'il y a des moments où il n'y aura pas d'écran du tout. Comme ça, ça aide les enfants à penser à pouvoir s'investir dans autre chose.
Oui.
Et à partir de là, effectivement, redécouvrir les jeux de société, ils y prennent beaucoup de plaisir, redécouvrir les sorties et tout simplement dessiner, retrouver tous les jouets qu'ils ont en général dans leurs armoires, qu'il y a pléthore un peu partout dans la maison. Donc je pense que ce qui est important, c'est de les accompagner en étant, si on peut, un peu présent, mais on ne peut pas l'être. Donc un temps limité, qu'on arrive à se libérer si possible chaque jour, peut-être un quart d'heure par enfant où vraiment on est avec eux, on est bien avec eux sans écran. Et après, ça peut aussi les lancer sur d'autres choses. Ensuite, libérer ce temps pour qu'après, ils puissent aussi par eux-mêmes se lancer dans d'autres activités. Et ne pas avoir peur quand les enfants disent « Je m'ennuie, papa, maman, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. » Ou là, on peut être tenté de leur redonner effectivement une tablette ou de leur rallumer la télé. Mais bien de les laisser passer à autre chose.
Voilà, et peut-être les accompagner et pas simplement répondre à un enfant « je m'ennuie » et dire « Eh ben c'est bien, c'est comme ça que tu auras ton imaginaire qui va se développer. » Moi, parfois, je trouve que c'est super violent quand j'entends ça. Enfin, j'ai entendu ça quand j'étais petite. Moi, ça me choquait parce que j'aurais bien aimé qu'on m'initie à certaines choses au lieu de me dire « c'est très bon pour toi l'ennui. »
Ah oui, mais on voit ça déjà avec les enfants tout petits. Si vous mettez une petite voiture devant un tout petit, il la regarde et c'est tout. Mais si le parent prend la petite voiture et fait vroum 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 en la faisant tournoyer sur
comme
la table,
papa.
Voilà, et ben l'enfant éclate de rire et puis il prend la petite voiture puis il essaye de faire pareil. Donc il faut vraiment mettre le pied à l'étrier des jouets. Il y a des enfants qui ont leur chambre pleine de jouets, mais on leur a jamais montré comment jouer avec. Et vous savez, quand un enfant joue avec un parent et un jouet, il intériorise son parent. parent, et après il peut jouer avec le jouet sans le parent, parce qu'il a encore l'impression de rester avec le parent, parce qu'auparavant il a joué avec le jouet, mais aussi avec son parent. Donc il faut vraiment jouer un petit peu avec nos enfants, pour qu'après ils puissent jouer tout seuls. Il ne faut pas leur dire, on t'a acheté des jouets, t'as qu'à jouer. Il faut jouer un petit peu avec eux, puis après
ils jouent.
Mais voyez, ça oblige aussi à changer de point de vue. Il n'y a pas les enfants et les écrans, il y a les écrans et nous, et puis voilà, on est embarqués comme eux, et donc il faut apprendre à gérer cette situation ensemble.
Ce qui est intéressant aussi dans ce projet, je trouve, Serge Tisseron, c'est que inéluctablement, si on l'applique bien, si on le fait bien, finalement, tout le monde peut recouvrer des plaisirs qu'on a un petit peu laissés au bord de la route. C'est-à-dire qu'en tant que parent, se remettre en question, s'investir dans ce projet-là et pas simplement considérer que c'est l'affaire des enfants, mais que c'est une affaire familiale, c'est aussi, quelque part, en tant que parent, c'est gratifiant, je trouve, de pouvoir passer du temps avec nos enfants, être dans quelque chose de plus constructif, moins chacun dans son coin.
Et en
ça
plus,
peut dans... faire que du bien, quoi.
Tout à fait. Et en plus, dans ce temps passé avec les enfants, on va avoir du temps pour parler avec eux de ce qu'ils font. Il faut bien comprendre qu'ils peuvent nous apporter énormément. D'ailleurs, beaucoup de parents qui ont des applis à installer demandent à leur enfant de le faire. Il y a même des parents qui demandent à leur enfant d'installer le système de contrôle parental parce qu'ils n'arrivent pas à le faire.
Chérie, viens.
Voilà. Mais ce qui est plus intéressant, vous voyez, autour, par exemple, de séries télé, des ados qui les regardent, on leur demande qu'est-ce qu'ils regardent, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils y voient. Parce qu'il y a des programmes de grande qualité aussi qui sont regardés. Il y a des jeux vidéo de grande qualité qui sont joués par des jeunes. Et il ne faut pas jeter tout ça au feu. Voilà, prendre du temps pour en parler avec eux, c'est à la fois découvrir mieux nos enfants et puis découvrir toute cette nouvelle culture dans laquelle ils vont baigner, dans laquelle nous allons baigner nous aussi de plus en plus.
Anne Pémirard, rapidement.
Oui, je voulais rebondir aussi sur ce que vous disiez. Effectivement, je pense que la clé, c'est le parent. C'est comment le parent, justement, va instaurer quelque chose de nouveau à la maison. Oui. Et je pense que ce qui est important de souligner, c'est que si on veut que nos enfants changent, et bien peut-être qu'il faudra aussi que nous, on change un peu notre façon de faire. Voilà. Et je pense qu'il faut bien retenir ça, et que même si parfois ça peut paraître difficile aux parents, en fait, on est la clé vraiment pour changer les choses à la maison.
On n'est pas là pour bannir les écrans, mais on est quand même là pour dire la vérité. Donc là, on a parlé des projets et tout. On va accueillir le docteur Damien Mascret sur l'antenne d'RTL. Bonjour Damien. Bonjour docteur.
Bonjour.
Bonjour Doc. Docteur Damien Mascret, alors on va dire la vérité, les écrans, ça n'est pas non plus toujours... Il y a des vertus, on l'aura bien compris, il faut savoir mesurer l'utilisation, mais physiquement, ça n'est pas très bon pour nos enfants tout ça.
Ben non, c'est pas très bon, c'est pas très bon pour les yeux, pour le cou, et puis plus généralement pour le cerveau.
Ouais.
Alors d'abord pour le cou, la tête, ça pèse quand même 5 kilos. On s'en rend pas toujours compte parce qu'on la porte naturellement, mais ça pèse 5 kilos. Sauf que quand vous la penchez de 45 degrés, alors pour ceux qui sont pas forts en maths, 45 degrés c'est la moitié d'un angle droit, et c'est ce qu'on fait quand on regarde sur un écran, sur un smartphone par exemple, ou une tablette, et bien quand on la penche de 45 degrés, cette fois-ci, c'est 20 kilos de pression qui s'exerce sur les vertèbres cervicales. Donc, autant vous dire que ça ouvre la porte à des douleurs du cou importantes.
Important.
Alors, certes, les enfants sont souples, ils sont parfois pas debout, ils sont allongés, ils sont dans des positions improbables, mais il n'empêche qu'on est rarement avec la tête bien droite quand on regarde l'écran. Et donc, voilà, déjà, un premier inconvénient, c'est qu'il y a une pression phénoménale sur le cou quand on regarde des tablettes ou des smartphones, par exemple.
Alors, rapidement, les yeux aussi, on s'inquiète.
Alors, pour les yeux, là, c'est le problème de la lumière. La lumière est beaucoup trop près des yeux. Et ça, on sait que la lumière, notamment la lumière bleue, qui est contenue dans les LED, par exemple, et des tas d'écrans, eh bien, cette lumière bleue a un effet très agressif pour l'œil. Le pire, c'est les casques de réalité virtuelle. Vous avez des LED qui sont à 5 cm des yeux. Et là, en plus, il y a une loupe grossissante. Donc ça, on sait que ça abîme la rétine. On a déjà des modèles d'animaux pour lesquels on obtient en une seule journée des dégradations, des morts des cellules. Et on se dit que peut-être dans 10 ans, 20 ans, on aura des dégénérations rétiniennes qui seront dues à cet excès, à cet aveuglement qui s'exerce sur les yeux.
Alors, on a parlé, nous, de la concentration pendant cette émission. On a parlé aussi des troubles du sommeil. Alors, il faut le savoir, les ondes Wi-Fi, ça vaut pour tous les messieurs aussi qui nous écoutent. Ça affecte la production des spermatozoïdes. Donc, sachons-le, ça fait partie... non, mais c'est important quand même pour la suite de l'humanité. C'est mauvais pour la peau. Voilà, dernier conseil qu'on peut donner aux parents aussi qui nous écoutent.
Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas s'exposer. Alors, il faut pas s'exposer. C'est difficile dans notre environnement de ne pas s'exposer. Et puis, il faut relativiser les risques par rapport à d'autres risques. Évidemment. Maintenant, on peut quand même, encore une fois, limiter, cette fois-ci pour des raisons physiques. Vous avez développé les raisons, raisons j'allais dire, relationnelles, de développement intellectuel ou social, de ne pas trop s'exposer à tous ces écrans. Mais il y a aussi les raisons physiques de limiter, parce qu'on sait, cette fois-ci, c'est des mesures très faciles à faire en physique, on sait que plus on est près d'une source importante, et plus l'émission est très forte. Donc, par définition, tout ce qui est tablette, smartphone, oui. Est beaucoup plus près, et même que les téléviseurs d'ailleurs, mais maintenant souvent les enfants et les ados regardent la télé sur leurs écrans d'ordinateur ou de tablette, donc ça c'est catastrophique parce que l'émetteur étant très près, eh bien la dégradation qui se fait en principe en 20, 30, 40 cm ne se fait pas, donc on se prend des doses maximum, et ça c'est mauvais pour la santé.
Très bien, et je terminerai très rapidement, Damien Mascret, en vous remerciant et en expliquant aussi qu'il faut nettoyer les écrans parce que c'est truffé de bactéries, donc c'est un peu dégueu. Non mais c'est vrai, c'est important ça aussi pour l'hygiène de nos enfants. Damien Mascret, je vous remercie et je rappelle votre ouvrage « Dico guide de votre santé » aux éditions Le Duc. Je vous embrasse, à la prochaine.
Merci,
Doc.
Merci, à bientôt.
Salut.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Je remercie tous les auditeurs qui nous ont laissé des messages et je présente nos excuses à Marion qui devait intervenir sur cette antenne et on est en direct et le temps file trop vite. Voilà, on remercie Serge Tisseron d'avoir accepté notre invitation. Serge, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je rappelle 36912 apprivoiser les écrans et grandir aux éditions RS et le guide pour les accros aux écrans ou comment garder à la fois mon ordi et mes parents aux éditions Nathan. Des ouvrages vraiment nécessaires et qui vont pouvoir vous aider ainsi que celui-ci. Débranchez vos écrans aux éditions First, Anne Pémira. Je vous remercie. C'est un super. Débranchez vos écrans. Vous voyez le lapsus, débranchez vos enfants. C'est un super ouvrage. Vraiment, j'ai trouvé ça passionnant. Merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation. Et à bientôt. Demain sur RTL, on parlera de ceux dont l'amour ou l'histoire dure depuis de longues décennies. Ceux qui restent ensemble et qui ont résisté aux épreuves de la vie et du couple. On les appelle les couples dinosaures, mais nous, on préfère dire les amours au long cours. Peut-on aimer une seule personne pendant 30, 40, 50, 60 ans, est-ce toujours de l'amour? On attend vos avis et témoignages demain à 15h sur RTL. D'ici là, entre eux, c'est une vieille histoire. Voici Laurent Ruquier et les grosses têtes. Moi, je vous embrasse et puis je vous dis à demain sur RTL.
Vous écoutez RTL.